On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'info et Québec Science. Pour ou contre interdire les cellulaires dans les spectacles? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 15 juin 2026 dans Les As de l'info. Harry Styles le fait. Le légendaire chanteur américain Bob Dylan aussi. Sabrina Carpenter et Billie Eilish y pensent, comme de plus en plus d'artistes. Quoi donc? Interdire les téléphones cellulaires pendant leurs concerts. Pourquoi? Essentiellement, ils dérangent. Sauf que ça a aussi des désavantages. Voici les pour et les contre interdire les cellulaires dans les spectacles. Les pour. Ça permet de vraiment profiter du concert. Interdire les cellulaires, ça permet aux spectateurs de se concentrer à 100% sur un spectacle qui a été fait pour être vu avec les yeux. Pas à travers un petit écran. C'est plus facile de bien apprécier ce qui se passe devant nous sans notre sel ou celui du voisin qui nous déconcentre. Quand on prend la peine de payer des billets et de se déplacer pour voir notre chanteur préféré, la moindre des choses, c'est d'en profiter. Ça crée une ambiance spéciale. Les artistes s'en plaignent. De la scène, ils voient une mer de téléphones, pas des visages. Difficile de vraiment connecter avec la foule, mais quand les cellulaires disparaissent, la magie opère. Un photographe qui a assisté à un spectacle sans téléphone de Harry Styles à Manchester a vu la différence. Tout le monde semblait simplement profiter du moment présent. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment spécial. Ça préserve les surprises. Les créateurs travaillent pendant des mois et parfois même des années pour nous en mettre plein les yeux et les oreilles avec leur spectacle. Effets spectaculaires, chansons surprises ou des chorégraphies enlevantes. Impossible de garder quoi que ce soit secret quand tout est filmé et diffusé partout. C'est plate de tout savoir d'avance. Les contres. On veut garder des souvenirs. Aller voir un concert, c'est un événement. Encore plus quand on va voir son idole. On veut pouvoir le partager et garder des images en souvenir. C'est vraiment plate de ne pas pouvoir prendre quelques photos pour immortaliser ce moment unique, surtout quand on paye cher. Ce n'est vraiment pas pratique. Dans les concerts où les téléphones sont interdits, on doit glisser notre appareil dans une pochette qui est ensuite scellée. Interdit de l'ouvrir, sinon la sécurité nous expulse. Résultat, impossible d'être contacté par nos parents ou de communiquer avec eux en cas de pépin, à moins de quitter le spectacle. Pas possible non plus de se servir de son téléphone pour payer. Il faut traîner des cartes ou des sous, vraiment pas pratique. Moins de visibilité pour les artistes. Toutes les photos et les petites vidéos qui circulent et qui se partagent entre fans, c'est de la belle publicité gratuite pour les artistes. C'est comme ça qu'on crée une communauté autour d'une vedette. Se priver de ça, c'est se couper de beaucoup de visibilité. En bref, pour, ça permet de vraiment profiter du concert. Ça crée une ambiance spéciale, ça préserve les surprises. Contre, on veut garder des souvenirs. Ce n'est vraiment pas pratique. Moins de visibilité pour les artistes. Toi, es-tu pour ou contre interdire les cellulaires dans les spectacles? Thank you. des classes forêts contre la myopie. Un texte paru le 12 juin 2026 dans le magazine Québec Science. Des salles de classe décorées comme des forêts freinent l'apparition de la myopie chez les écoliers. Et si le remède contre la myopie était simplement de mieux décorer nos écoles? Tu portes peut-être des lunettes, ou tu connais assurément quelqu'un qui en porte. À l'adolescence, on porte des lunettes surtout pour contrer la myopie. La myopie, c'est le défaut de vision qui fait qu'on voit flou de loin parce que l'œil est un peu trop allongé. Et ce problème est en train de devenir une véritable épidémie mondiale. Selon les projections, la moitié de la population de la planète sera myope d'ici 2050. Chez les enfants en Asie de l'Est, les chiffres sont déjà alarmants. On sait depuis un moment que passer du temps à l'extérieur protège les yeux des enfants. Mais pourquoi? Une hypothèse intéressante. Ce n'est pas forcément la lumière du soleil seule qui compte, mais la complexité visuelle des paysages naturels. Les forêts, le ciel et les feuillages regorgent de détails fins dans toutes les directions, ce qu'on appelle en optique des hautes fréquences spatiales. Les salles de classe traditionnelles, elles, avec leurs murs blancs et lisses, en sont quasiment dépourvues. Ce serait un peu comme regarder le monde à travers du verre translucide, et pour l'œil en développement, ça pourrait être un signal pour allonger sa forme, ce qui favorise ainsi la myopie. Des chercheurs chinois ont voulu tester cette idée de façon concrète. Ils ont transformé des salles de classe en véritables panoramas forestiers. Murs, plafonds, sols, même les bureaux des élèves ont été recouverts de papier peint représentant des arbres, un ciel bleu, des oiseaux. L'objectif était d'imiter les profils visuels complexes de la nature à l'intérieur d'une école. Cette expérience, menée en Chine, a comparé des groupes d'élèves de troisième année du primaire pendant un an. Certains dans des salles de classe forestières, d'autres dans des salles ordinaires. Les résultats. Chez les enfants qui n'étaient pas encore myopes au départ, la progression vers la myopie a été nettement ralentie dans les salles forestières. Chez les enfants qui voyaient bien de loin, mais dont les yeux étaient encore en développement, le bénéfice était particulièrement marqué. Ce qui est frappant, c'est l'ampleur de l'effet. La protection offerte par ces salles de classe était comparable à celle qu'on obtient en forçant les enfants à passer plus de temps dehors. Une intervention plutôt difficile à mettre en œuvre à grande échelle dans les villes. Mieux encore, cette approche est passive. Les enfants n'ont rien à faire de spécial. Ils suivent simplement leur cours habituel, exposés environ 7 heures par jour à ces environnements visuellement riches. Pas d'efforts supplémentaires, pas de médicaments, juste de la tapisserie, peint, bien choisie. Bien sûr, l'étude a ses limites. Elle n'a duré qu'un an, et elle n'a testé qu'un seul type de décor. Il faudra de nouvelles études sur des enfants plus jeunes et sur de plus longues durées. Et le mécanisme exact reste à explorer. Une piste évoquée est le rôle de la dopamine, un neurotransmetteur libéré par la rétine en réponse à certains stimuli visuels qui pourraient freiner la croissance excessive de l'œil. En attendant, l'idée est séduisante. Et si le remède contre la myopie était simplement de mieux décorer nos écoles? Et toi, est-ce que tu aimerais étudier dans une classe forestière? Le cartel du pain rembourse les Canadiens. Un texte de Marie-Lise Beaudoin, paru le 15 juin 2026 dans les As de l'Info. Les parents ont peut-être reçu des sous de la part de la chaîne d'épicerie Loblaw. En effet, elle remet 500 millions de dollars aux consommateurs canadiens. C'est parce qu'elle leur a fait payer le pain trop cher pendant près de 15 ans. On a mis la main à la pâte pour t'expliquer cette saga croustillante. Mais avant tout, quel type de pain préfères-tu? Le pain tranché sans croûte? Le pain tortilla? Le pain multigrain? Le pain baguette? Le pain à l'ail? Le pain au raisin? Les bagels? Les muffins anglais? Moi, j'aime tous les pains. Hashtag petit retour dans le pain, c'est passé. L'histoire commence en 2001, lorsque deux boulangeries industrielles, Canada Bread et George Weston, se rencontrent secrètement pour conclure un accord. En effet, elles s'entendent pour augmenter en même temps le prix du pain qu'elles vendent au supermarché. Puis, les deux compagnies convainquent plusieurs épiceries, dont Loblaw, de participer au stratagème. C'est ce qu'on appelle une entente anticoncurrentielle ou un cartel. Et c'est interdit par la loi. Une entente anticoncurrentielle. Quoi? Imagine que Marie-Lise et son amie Alice vendent toutes les deux des tomates. Normalement, si Alice baisse son prix, elle attirera plus de clients et Marie-Lise devra s'ajuster. On appelle ça la concurrence. C'est un processus qui, en général, favorise la baisse des prix. Mais si Marie-Lise et Alice s'entendent pour augmenter le prix de leurs tomates en même temps et éviter de les baisser par la suite, il n'y a plus de concurrence. Résultat, les coûts ne feront qu'augmenter car personne ne cherche à offrir le meilleur prix. C'est ça, une entente anticoncurrentielle. Et c'est le client le perdant. Loblaw avoue la supercherie. Ou supincherie? En 2015, Loblaw admet avoir fixé des prix trop élevés sur le pain emballé vendu dans ses magasins depuis 2001. Une enquête a lieu et on découvre que plusieurs supermarchés que tu connais sûrement, comme Metro, Walmart Canada ou encore Tigre Géant, auraient également participé au stratagème. L'existence du cartel du pain est révélée, mais ils nient tout. En d'autres mots, ils affirment ne pas avoir mangé de ce pain-là. D'après l'enquête, cette pratique illégale aurait permis aux entreprises participantes d'empocher des milliards de dollars. On peut dire qu'elles s'en sont mis plein les poches. Des clients en colère. Les aveux de Loblaw enragent les consommateurs qui réalisent qu'ils ont payé environ 1,50 $ leur pain trop cher pendant des années. Pour réparer son erreur, Loblaw a du pain sur la planche. Elle distribue donc des cartes cadeaux de 25 $ aux clients qui en font la demande. Mais pour plusieurs, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi, en 2018, une action collective est lancée contre la compagnie. C'est quoi une action collective? Une action collective, c'est quand un grand groupe de personnes s'unit pour porter plainte contre une entreprise ou une organisation. Elles le font parce qu'elles ont toutes été victimes du même problème. Cela permet de régler le problème pour tout le groupe en une seule fois. Puis, en mars 2025, une entente est finalement conclue. Loblaw accepte de rembourser 500 millions de dollars à la population canadienne. Loblaw s'engage à collaborer pour aider les personnes qui poursuivent les autres compagnies impliquées dans l'enquête. C'est maintenant que les gens reçoivent leur argent. Pour recevoir le dédommagement, les consommateurs devaient soumettre une réclamation avant décembre 2025. La plupart des gens reçoivent un montant de $42.50. S'ils avaient accepté par le passé une carte cadeau de $25, ils reçoivent plutôt $17.50. Et toi, si tu pouvais construire ton sandwich idéal, que mettrais-tu à l'intérieur? Une maladie bidon qui berne l'IA et les humains. Un texte paru le 29 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Une chercheuse a inventé la bixonymanie, une fausse maladie oculaire, pour voir ce qu'en feraient les intelligences artificielles. As-tu déjà demandé des conseils de santé à une intelligence artificielle? Peut-être pour des yeux rouges qui piquent ou des démangeaisons après trop de temps devant un écran? L'IA pourrait te répondre que tu souffres de bixonymanie, une maladie causée par la lumière bleue. Sauf qu'il y a un petit problème. Cette maladie n'existe pas. Tout commence en 2024, alors que Osmanovic Tomstrom, une chercheuse suédoise, décide de tester la façon dont les intelligences artificielles diffusent l'information. Elle invente de toutes pièces une maladie et rédige deux faux articles scientifiques à son sujet. Elle y glisse plusieurs indices évidents. Un auteur au nom farfelu, Laziv Ibolgledovic, affilié à une université complètement fictive, l'Université de la Communauté de l'Anneau et de la Triade Galactique. Elle écrit même noir sur blanc que les articles sont faux. Et pourtant, elle met les articles en ligne et les intelligences artificielles tombent dans le panneau. Rapidement, elle présente la bixonymanie comme une vraie maladie et conseille même aux utilisateurs de consulter un médecin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les faux articles finissent par être cités dans de véritables publications scientifiques. La supercherie ne piège donc pas seulement les machines, mais aussi les humains, qui utilisent les IA pour dénicher des sources, mais sans les vérifier. Cette histoire peut faire sourire, mais elle soulève des enjeux importants. Si une fausse maladie peut se glisser aussi facile dans les réponses des IA, et même dans des articles scientifiques, imagine ce qui peut arriver avec de vraies informations mal vérifiées. Dans le domaine de la santé, cela peut être particulièrement risqué. Une mauvaise information pourrait inquiéter inutilement ou, au contraire, retarder une vraie consultation médicale. Le problème, c'est que les intelligences artificielles ne comprennent pas comme nous. Elles repèrent surtout des modèles et des textes qui ont l'air crédibles. Résultat, elles peuvent répéter des erreurs sans s'en rendre compte. Alors, la prochaine fois que tu consultes une IA pour un conseil médical, garde un esprit critique, même si la réponse a l'air très convaincante. Et toi, as-tu déjà été atteint par une crise de bixonymanie? Célébration éblouissante pour la plus haute église du monde. un texte de Caroline Bouffard, paru le 12 juin 2026 dans les As de l'Info. Illumination grandiose, feu d'artifice spectaculaire et vol de drones personnalisés. Mercredi soir, la ville de Barcelone, en Espagne, a vraiment mis le paquet pour célébrer un des édifices les plus connus au monde, la Sagrada Familia. Il y avait plusieurs raisons de fêter. La plus importante, plus tôt dans la journée, le pape Léon XIV a béni la tour de Jésus-Christ. Haute de 172,5 mètres, elle fait de la Sagrada Familia l'église la plus haute du monde. Mais pourquoi bénir seulement une tour? Tu dois savoir que la Sagrada Familia est en construction depuis 144 ans. La tour de Jésus-Christ a été complétée en début d'année. C'est une étape importante puisque maintenant, les 18 tours de l'église sont enfin terminées. Le 10 juin 2026 marque aussi le 100e anniversaire de la mort d'Antoni Gaudi, le génial architecte qui a imaginé la Sagrada Familia. Les artificiers ont créé son visage avec des centaines de drones, ce qui a illuminé le ciel de Barcelone. Le pape a dit que la Sagrada Familia était un chef-d'œuvre de pierre, de couleur et de lumière. Si tu veux en savoir plus sur ce projet monumental et un peu fou, voici 5 faits étonnants sur la Sagrada Familia. Après 144 ans de travaux, la plus haute tour de la Sagrada Familia, célèbre église espagnole située à Barcelone, est enfin terminée. Ouf, ça a pris du temps. Mais tu sais quoi? Le bâtiment n'est même pas encore complètement construit. Voici 5 faits étonnants sur la Sagrada Familia, un projet monumental unique au monde. Un chantier interminable. La construction de la célèbre église a débuté en 1882. Et après 144 ans, elle n'est toujours pas complétée. Pourquoi c'est si long? Pour plusieurs raisons. La première, le concept de l'architecte Antoni Gaudi était très compliqué. Un exemple. L'église compte 18 tours. Ensuite, depuis 1882, l'Espagne a connu des révolutions, les deux guerres mondiales, la pandémie. Tout cela a ralenti les travaux. L'église a aussi été endommagée par un incendie. Finalement, il y a l'argent. Cet immense chantier coûte une fortune. On parle de plus de 600 millions de dollars. Ce sont principalement les visites des touristes qui financent le projet. 2. Un architecte génial. L'architecte Antoni Gaudi n'avait que 31 ans quand il a hérité du projet de construction. Il y a mis tout son cœur et y a consacré 43 ans. Il a tout imaginé et a planifié chaque détail. La structure, les décors, les ambiances, les vitraux, les mosaïques. Son atelier était dans l'église et il y aurait même dormi à la fin de sa vie. Quand Gaudi est mort à 73 ans, en 1926, il y a 100 ans, une seule des 18 tours de la Sagrada Familia s'élevait dans le ciel. Il savait que la construction ne serait pas terminée de son vivant et a été enterré sous l'église. 3. L'inspiration, la nature. À travers sa carrière, Gaudi s'est inspiré des arbres, des vagues, des coquillages, bref, de la nature. Et comme il n'y a pas de ligne droite dans la nature, il y en a très peu dans la Sagrada Familia et dans ses autres bâtiments. Leur ligne courbe, surprenante, c'est ce qui les rend si uniques. 4, 172,5 mètres. C'est la hauteur de la tour de Jésus-Christ. Sa construction a été complétée le 20 février. Elle a fait de la Sagrada Familia la plus haute église au monde. C'est aussi le plus haut immeuble de toute la ville de Barcelone. Pour te donner une idée, elle dépasse la tour du Stade olympique de Montréal, qui fait 165 mètres. 5. Objectif 2034. C'est peut-être en 2034 que la Sagrada Familia sera enfin terminée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Beaucoup de travail de décoration et de sculpture, entre autres. Mais les plus gros travaux à venir sont la construction de l'immense escalier et de la place publique devant l'entrée principale. Le hic, c'est que, pour bâtir tout ça, il faut démolir plusieurs immeubles et déplacer 1000 familles et commerces. Et ceux-ci ne sont pas d'accord. La célèbre église risque donc de faire parler d'elle encore longtemps. Est-ce qu'il y a une église près de chez toi? L'as-tu déjà visitée? Toi, si tu devais consacrer ta vie à construire ou créer quelque chose, ce serait quoi?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine